Chapitre 8. Tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Cours 1. Les inégalités de la société d'ordre. Comment s'organise la société d'Ancien Régime? A. Une société divisée en ordres. 1. Des racines anciennes. La société d'ordre trouve son origine au Moyen-Âge. Ceux qui prient forment le clergé. Ceux qui combattent, la noblesse, et ceux qui travaillent, le tiers-état. En 1610, Charles Loiseau définit juridiquement ces trois groupes ou états dans son traité des ordres et simples dignités. 2. Clergé et noblesse, deux ordres favorisés. Les membres du clergé prennent en charge le salut des fidèles et les plus puissants, comme le cardinal de Richelieu et le cardinal Mazarin, agissent auprès du roi pour le conseiller, voire participer au gouvernement. Les membres de la haute noblesse servent le roi durant les guerres ou dans son administration. Ces deux ordres bénéficient de privilèges symboliques et fiscaux. Le clergé verse chaque année une contribution libre au roi et les nobles participent à certaines levées d'armées, mais les deux ordres ne paient pas au roi la taille. 3. Le tiers-état, un ordre dominé. Représentant 95% de la population, les membres du tiers-état ont en charge toutes les fonctions productives et économiques du royaume, dans les villes et dans les campagnes. Ce groupe social supporte l'essentiel de la fiscalité royale. Néanmoins, certaines parties du tiers-état peuvent être dispensées de certains impôts. Les bourgeois, dans quelques villes, les habitants de province rattachés plus tardivement au royaume. B. Une grande diversité sociale et politique. 1. Une société hiérarchisée. La société d'Ancien Régime distingue les femmes et les hommes par leur statut juridique. Cette division se double d'une diversité sociale, du plus riche au plus pauvre, et professionnelle au sein même de chaque ordre. La noblesse se divise en sous-groupes qui n'ont ni la même histoire ni la même fonction. On distingue ainsi la noblesse de robe de la noblesse d'épée. Par ailleurs, hormis les grandes familles, elle est essentiellement composée de petits et moyens nobles vivant sur leurs terres, loin de la cour. Le clergé est également divisé entre le haut clergé, qui dirige l'église, et le bas clergé, prêtre de village par exemple. Cette diversité sociale est davantage marquée parmi les membres du tiers-état. Quoi de commun entre un grand marchand et un petit paysan sans terre? 2. Des mobilités sociales. Au sein de chaque ordre et entre les ordres, il existe des mobilités. Ainsi, un roturier, non noble, peut devenir noble, anoblissement. À l'inverse, un noble qui travaille de ses mains, ce qui est interdit, est déclassé dans le tiers-état. 3. Des luttes d'influence. Après la Fronde, 1648-1653, Louis XIV limite l'influence politique de la grande et ancienne noblesse d'épée pour s'appuyer sur une noblesse de robe, souvent plus récente, qui récupère les fonctions de conseil ou de ministre du roi. C. Des tensions et des révoltes. 1. Une paysannerie dominée. La très grande majorité de la population du royaume est paysanne. Les paysans vivent et travaillent, le plus souvent, dans le cadre de la seigneurie rurale. Ils doivent donc payer chaque année à leur seigneur des redevances en nature, le champard, qui est une partie de la récolte, ou en argent, le cens. Souvent encore, ils sont soumis à la justice du seigneur pour des délits mineurs. À ces redevances seigneuriales s'ajoutent les impôts royaux, directs ou indirects, qui sont en forte hausse au XVIIe siècle. 2. Des révoltes régulières. Ces charges fiscales sont à l'origine de nombreux soulèvements populaires. Les contestations peuvent naître du refus de payer les taxes nouvelles ou de changer de régime fiscal jusque-là favorable. Ces révoltes sont parfois encadrées par de petits seigneurs ou des membres du clergé, voire soutenues par des élites urbaines et membres du Parlement à l'échelle d'une province, comme durant la révolte des nu-pieds en 1639. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, ces révoltes collectives sont moins nombreuses en raison de l'amélioration progressive des conditions de vie dans les campagnes. Elles reprennent nettement à partir des années 1760, toujours dirigées contre l'État et sa fiscalité, contre la hausse des prix du pain, comme la guerre des farines en 1775, et dans une moindre proportion contre les seigneurs.